Bienvenue à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Duhamel en ce lundi 4 août à 18h30 à la salle communautaire 16 au 18-90 de la rue principale à Duhamel sous la présidence du maire M. David Farran. Sont présents Mesdames Marie-Céline Hébert et Denise Corneau, M. Michel Longtin, Raymond Bisson et Gilles Payé. M. Noël Picard est absent. Je suis Liette Kenville, directrice générale. Ce soir, j'agis à titre de secrétaire d'Assemblée. Conformément au règlement 2024-04 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité du Duhamel, cette séance est enregistrée audio. Je cède la parole à M. Farran.
Merci, Liette. À l'heure du jour, j'avais promis une présentation. Une présentation sur l'évaluation foncière. Et j'en ai parlé avec Liette. Liette était en vacances, puis c'était un peu mon prétexte le mois passé pour dire déjà la direction générale adjointe qui joue le rôle de direction générale est surchargée par les élections, fait qu'on va lui donner congé de me préparer une présentation. Liette m'explique que Servitec va déposer très, très bientôt, dans les semaines à venir, le nouveau rôle d'évaluation. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt de vous faire une présentation sur ce qui s'est passé, là, 3 ans passés, et l'évolution, là, 3 ans passés, c'est de vous présenter, dès qu'on va recevoir les informations de Servitec, donc probablement au mois de septembre, une présentation sur l'impact le plus récent possible de l'analyse de Servitec sur l'évaluation foncière de notre municipalité, secteur par secteur, je dirais type de logement par type de logement. Et on pourra faire un rappel sur ce qui s'est passé, un peu ce que aurait été ma présentation aujourd'hui sur le sujet. On va pouvoir voir un portrait d'ensemble, pas juste sur 3 ans, mais sur 6 ans. Mais l'importance à retenir, c'est que ma présentation le mois prochain, si on a toute l'information à cette date-là, serait sur l'information la plus pertinente possible pour vous. Alors, c'est ce que je vous propose. Et on n'a pas préparé une présentation qui aurait été dépassée dans les 4 prochaines semaines par un nouveau dépôt de rôle. Sur ce, je vais ouvrir l'Assemblée. Donc, il est résolu d'ouvrir la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Duhamel à 18h42. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Au point 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour, il est résolu que les membres du Conseil approuvent l'ordre du jour tel que déposé. Tout le monde est d'accord?
Oui.
Il y a une copie en arrière pour ceux qui n'en ont pas. Au point 1.3, lecture et adoption du procès-verbal du mois de juillet 2025, il est résolu que la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2025 soit exemptée et adoptée telle que déposée. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Au point 2, finances. 2.1, adoption des comptes fournisseurs et des salaires nets au 31 juillet 2025. Il est résolu que le Conseil approuve les paiements des comptes payés et à payer au 31 juillet de cette année pour un montant total de 165 293 $, ainsi que les salaires nets au montant de 87 336 $, et ce, tel que détaillé, à savoir la liste sélective des déboursés payés par les chèques, les paiements directs et les prélèvements. Et que les dépenses autorisées en vertu du règlement de délégation de pouvoir incluses à ces listes soient, par la même occasion, approuvées. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
2.2, rapport mensuel des revenus et dépenses au 31 juillet 2025. Il est résolu que le rapport des revenus et dépenses au 31 juillet 2025 soit accepté, sujet à contrôle par le vérificateur nommé par le Conseil. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Pour votre information, là, on est au septième mois sur 12, 58%. Les dépenses frisent le 54%. On est dans la moyenne des années avec un peu moins de dépenses que prévu. C'est rien qui signale une problématique ou une réussite totale de fin d'année, mais on est sur la courbe normale des dépenses. Il n'y a pas d'alarme qui est lancée présentement. 2.3, écriture budget révision juillet 2025. Donc ça peut vous lancer une alarme, mais à chaque année, on fait le travail de reviser notre budget. Alors, considérant que le budget de fonctionnement pour l'exercice financier en cours a été adopté lors de la séance extraordinaire du 2 décembre 2024, considérant que certains ajustements sont nécessaires afin de refléter les dépenses et revenus réels et ou anticipés par la municipalité, considérant que l'administration municipale a préparé une révision budgétaire en ce sens présentée aux membres du Conseil, il est résolu que l'écriture numéro 185 soit approuvée par le budget révisé au 22 juillet 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Beaucoup d'administratifs, des entrées d'argent qui nécessitent des sorties d'argent. Donc, le budget va être plus élevé en revenus et en dépenses. Le 3 m'intéresse beaucoup ce soir, c'est le dossier de la station d'essence. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et je vais céder la parole à Denise Corneau pour qu'elle puisse nous mettre à jour sur les avancées de ce mois-ci.
On a finalement reçu la charte. On est maintenant créé. Ça s'appelle la coopérative de solidarité de Duhamel. Voici les petites cartes qui sont à vendre. Membre utilisateur, 20 $. Et membre soutien, qui est par exemple les motoneigistes, les associations, sont 100 $. Fait que ça nous encouragerait beaucoup si les gens seraient intéressés à acheter des cartes. Bon, on va probablement avoir un petit kiosque à la fête citoyenne aussi pour vendre des cartes. Puis, si quelqu'un est intéressé, vous pouvez m'appeler n'importe quand, prendre mon numéro à la municipalité ou je peux vous le donner après. J'ai ça à vendre.
Merci, Denise. Dossier mine, ben, tous les mois, depuis maintenant 5 ans, là, j'aborde le sujet pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans le mois passé et qu'est-ce qui s'en vient. Alors, dans le dernier mois, ma mémoire est bonne parce que les semaines roulent vite là, à l'été. On a fait des invitations qui ont été rejetées. On a invité l'UMICO à participer à notre rencontre. Je pense que je vous l'avais mentionné, que l'UMICO ne souhaitait pas participer à une rencontre qui était organisée par les municipalités. Ils vont que contribuer à une rencontre qui est préparé par eux. Alors ça, c'est... Il y a eu un rejet de ce côté-là. Et en même temps que j'incitais le ministère à inviter l'UMICO, j'en ai profité pour inviter le ministère à participer à nos rencontres en envoyant un fonctionnaire à cette rencontre-là. Et la réponse, c'est que les budgets ne permettaient pas au ministère d'envoyer un fonctionnaire à nos rencontres publiques, à Duhamel, ou bien à Chenéville, ou bien à Lac-Simon. Alors, il n'y avait pas le budget nécessaire pour les déplacements. Ça, c'est ma première nouvelle sur le dossier minier et ce qui s'est passé dans les mois passés. Ce qui se passe, habituellement, je vous dis 30 jours avant, 30 jours après, mais je vais vous arrêter aujourd'hui parce que c'est un peu un jour mémorable Il y en a parmi vous qui m'avaient dit, bien, on vous a lu dans la presse ce matin. Alors, c'est gros là, que la presse fait 4 articles sur le sujet des mines. C'est mémorable dans une année. En tout cas, ils ne font pas ça à tous les mois. Alors, c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Ça a provoqué ce matin un peu un mouvement de masse. La radio 98,5 Montréal m'a contacté en disant « On veut vous avoir en direct aujourd'hui, M. Farran. » Alors, ça s'est fait à 16h15 cet après-midi. Alors, j'ai eu droit à un 3-4 minutes là, en direct. Puis vous comprendrez que dans 3-4 minutes, on répond à une ou deux questions, puis c'est tout. On ne passe pas le message complet. Mais ça s'est fait. Et ce soir, moi, j'apprends à travers mes sources que le téléjournal Radio-Canada, pan-canadien, devrait sortir la nouvelle du projet minier, à savoir la problématique qu'on vit et la présence d'un référendum consultatif sur le territoire de la Petite Nation, qui est, puis je vous l'ai déjà dit, là, mais c'est unique au Québec. C'est la première fois qu'un référendum est fait sur un dossier minier en terre publique. Ça ne s'est jamais vu. Alors, on réveille du monde avec ça. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Pour les mois à venir, 31 jours, pensez-y, 31 jours, 31 août, on est dans un référendum. La liste électorale devrait être connue demain. Elle va être disponible au camp du Nord parce qu'ils se sont inscrits. Alors, les associations qui se sont inscrites vont avoir droit à savoir qui est sur la liste électorale. Le camp du oui, qui normalement serait la compagnie Lumico, aurait droit à cette information, mais ils ne se sont pas inscrits, ils n'ont pas droit à la liste. Il y a des périodes de révision de cette liste parce qu'il peut y avoir des erreurs, des manquements. Alors, ce n'est pas la fin du monde si votre nom n'apparaît pas. Il s'agit tout simplement de faire valoir vos droits de voteur. Je pense que c'est le 14 et 15 du mois d'août que vous allez pouvoir vous inscrire à nouveau, ceux qui ont manqué la période d'inscription. Alors, on est encore dans un 2 semaines de mouvement où on peut changer la donne. La liste électorale devrait s'accroître énormément par rapport à la dernière liste électorale qui date de 2021. Et je pense que présentement, on frise le 300 noms de plus sur la liste électorale. Et par la fin de la journée du 15, on devrait pouvoir dépasser ce chiffre-là. Je m'attends à une grande fête le 31, moi, personnellement. Là. Je m'attends à ce que les gens puissent attendre le vote là, qui va venir relativement tard. Le vote finit le 31 à 8 heures, et le vote va sortir à 9h30 ou à 10h. Puis, moi qui ai vécu d'autres élections, jamais un référendum, les élections, c'est que les gens sont curieux, puis plutôt que l'apprendre le lendemain ou le surlendemain par le voisin, ils viennent attendre à la sortie de la mairie pour entendre la présidente d'élection donner le résultat. Alors, je pense que ça va se faire vers les 9h30, 10h, le 31 au soir, le dimanche soir. Donc, le dossier minier, je pense que si vous avez d'autres questions, bien, vous aurez la période de questions pour vous faire entendre. Au point 5, rapport du maire, j'ai 2-3 choses à faire. D'abord, ne pas oublier de donner la parole à Liette. Pour les dérogations mineures, il y en a 2 ce soir, des dérogations mineures. C'est important, dans le processus du rapport du maire, de vous en parler. Mais moi, je veux vous parler d'une fête que j'ai eue hier, samedi soir au Lac Doré. Il y avait le souper de Doré au Lac Doré. Une fête traditionnelle. Puis, moi, en 4 mandats, en 16 ans comme maire, j'ai été invité souvent, puis j'ai souvent participé. Et Mais samedi soir, il y avait quelque chose de magique. Il y avait d'abord l'emplacement. Ils ont fait ça dans un rond-point, sous chapiteau, chose qu'on n'avait jamais fait dans le passé. Et il y avait quand même 180 personnes invitées qui s'étaient inscrites pour la fête. Il y avait de la danse, de la musique. C'était une fête de quartier, là, je dirais, une fête citoyenne extraordinaire où les gens, non seulement du lac, parce qu'à 180, il y avait des invités, là, il y avait des gens de Chénéville, Lac des Plages, il y avait des gens qui avaient vécu dans le passé au Lac Doré, mais qui sont encore rattachés. T'sais, les Monsieur Rose, les Monsieur Lalande avec épouse, Monsieur la Rose, puis Pierrette et Denis Boileau, tous les anciens reviennent à la source et ont participé à cette belle, belle fête. Moi, je pense que le lac Doré a quelque chose à apprendre au lac Gagnon, au lac Simon, au lac Chevreuil, à tous les secteurs, aux villages même. Ils sont capables de faire une fête communautaire qu'on ne fait pas souvent ailleurs. La municipalité, comme les membres du conseil, encourage ça, donne un budget pour ça, donne des prix de présence pour ça. Et n'importe quel secteur de lac, je sais que le lac Simon, le lac Gagnon, c'est grand, mais prenons une bretelle du lac Simon, prenons une bretelle du lac Gagnon, faites une fête de quartier. Puis on va être là, je pense, comme conseil, pour vous encourager à le faire. Lac Doré le font depuis longtemps. C'est une belle réussite, c'est un bel exemple. Bravo! J'ai assez pris de temps là-dessus. Je cède la parole à Liette pour les deux dérogations.
Merci. La première dérogation est pour le lot 6 164 885 sur la route 321. La dérogation demandée vise à régulariser la largeur insuffisante du lot 6 164 885 qui sert de chemin d'accès au lot 6 182 144. C'est un petit chemin d'accès là, qui est vacant. Là. C'est souvent un petit chemin là, qui sert à se rendre à des lots. Cette demande contrevient à l'article 39 du paragraphe 8 du règlement sur les permis certificats qui exige que tout terrain constructible soit desservi par une rue publique ou une rue privée conforme. La deuxième demande touche le lot 5 257 743 dans la zone 017V qui est située au 3494 chemin du lac Gagnon-Est. La dérogation demandée vise à permettre l'ajout d'un abri d'auto en plus d'un garage existant, ce qui excède la superficie maximale autorisée pour un bâtiment accessoire isolé. Cette demande contrevient à l'article 123, alinéa 2 du règlement de zonage 2023-04. La superficie d'un bâtiment accessoire isolé ne peut excéder 90 % de celle du bâtiment principal.
Merci, Liette. La raison pourquoi je donne la période du rapport du maire à Liette pour l'expliquer, c'est pour vous donner l'opportunité, ceux qui sont dans la salle tout au moins, de commenter ces dérogations mineures avant qu'elles soient votées. C'est l'importance de... puis on le fait, vous pouvez commenter toutes les résolutions qu'on fait, mais ceux-là, c'est important que vous sachiez qu'on est en train de déroger ou pas à un règlement municipal. Sur ce, je laisse la parole aux citoyens pour la période de questions. Monsieur Tremblay.
Oui, Yves Tremblay. Concernant la dérogation, j'ai un petit commentaire à faire là-dessus.
Laquelle?
Sur le chemin, la largeur du chemin, parce que la largeur du chemin est non conforme. Actuellement, on vit sur un chemin privé. Ça occasionne beaucoup, beaucoup de troubles actuellement, un chemin privé qui n'est pas de la bonne largeur, qui n'est pas de la bonne grandeur. Si on regarde pour le futur, pour ce genre de chemin, on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Si on déroge pour un chemin plus étroit, puis qu'on a besoin plus tard, éventuellement, de devenir un chemin public, puis qu'on n'a pas la bonne largeur, à ce moment-là, ça va créer des problèmes. Moi, c'est mon commentaire que je donne là-dessus. C'est quand même C'est risqué de donner une approbation, une dérogation à ce chemin privé actuellement, sachant ce qu'on a vécu, nous autres, qu'on vit encore, avec un chemin privé qui n'est pas conforme, puis qu'on ne peut pas rendre ça conforme, ou ça va être difficile de rendre conforme, parce que dans le passé, c'était le passé où il a été conçu selon des normes qui étaient à l'époque, mais qui étaient quand même très étroites. Et qui ne sont pas conformes. Fait qu'à ce moment-là, si jamais on veut construire un chemin public, si tout d'un coup il y a un paquet de développement dans ce secteur, puis qu'on veut construire un chemin public, on ne sait pas le futur de dire. Mais, par contre, si on fait une dérogation sur un chemin de même, il faut penser à long terme aussi. Il ne faut pas oublier ça.
J'entends.
Ça, c'est mon commentaire personnel sur une dérogation comme telle.
Et ça vient d'un homme avisé, j'en doute pas, parce que vous l'avez vécu de longue date. Dans ce cas ici, la dérogation, c'est pas la largeur du chemin, c'est la largeur du terrain de la personne. Puis là, je vais lancer un chiffre. Là. Excusez-moi si je connais pas toute la réglementation, mais supposons qu'on a besoin de 60 mètres de largeur en frontal pour avoir un terrain. Si quelqu'un arrive avec un terrain qui est moindre que ça, il doit passer par la dérogation. C'est le cas ici aujourd'hui. C'est le terrain qui est non conforme. C'est pas le lot rue qui est pas assez large. Mais je vous comprends. Si le lot rue était pas assez large, on a un problème.
Autant que le terrain est la superficie totale, complète pour les fosses septiques, peut-être une demande municipale, peut-être le gouvernement demande. Je pense que ça, on peut aller à une dérogation. C'est une question frontale, ça, je vois pas d'objection à ça, ouais. C'est sûr.
Mais si on devait ne pas respecter les normes de superficie totale du terrain, il faudrait que ce soit inclus dans la dérogation. Et dans ce cas ici, puisque ce n'est pas inclus, la superficie n'est pas en cause. La superficie du terrain n'est pas en cause.
Excellent.
Merci, mais j'argumente pas. Je fais juste entendre vos commentaires pour que le conseil puisse voter correctement.
Fait que j'apprécie. Vous votez là-dessus. Moi, je vois pas de problème là-dessus. Moi, je veux juste faire. Moi, ma question était.
Oui.
La semaine passée, j'ai eu un problème avec une personne. Puis, on parle d'environnement, puis d'entretien, on parle des alvéoles dans les lacs, les rivières, etc. Une personne qui est venue se baigner, se laver les cheveux dans le lac, tout ça. Fait que, moi, personnellement, je l'ai avisé de ne pas faire ça. Comme ça, je vais voir la municipalité ici, demander au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a un règlement, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, exactement, une personne qui se lave dans un lac, est-ce qu'on peut l'empêcher, est-ce que la municipalité peut mettre des pancartes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et la réponse que j'ai eue de la municipalité, c'est vrai que l'environnement est en vacances cette semaine, elle n'a pas pu, mais bon, c'est la personne qui était au niveau de...
Oui.
Du remplacement,
oui.
Il m'a dit on ne peut rien faire, c'est quelque chose de fédéral, on ne peut pas rien faire. On ne peut rien faire ça. Suite à ça, moi, je suis allé voir la réglementation là-dessus. Je vais vous lire exactement ce qu'il y en a avec ça, ces choses-là, exactement. Premièrement, c'est une loi provinciale, la loi sur la qualité de l'environnement du Québec, article 20, extrait de la loi RQCQ2. Nul ne peut émettre, déposer, rejeter ou permettre l'émission, le dépôt, le rejet ou le dégagement de contaminants dans l'environnement ou dans un lieu tel qu'il cause, puisse causer ou atteindre la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l'être humain à la qualité et à l'environnement de la faune ou de la forêt. La loi sur la qualité de l'environnement du Québec, article 20. L'explication. Cet article signifie que tout rejet contaminant dans l'environnement, y compris dans les lacs ou les rivières, est interdit sans autorisation préalable. Les savons, shampoings, détergents, même biodégradables, sont considérés comme des contaminants s'ils sont utilisés directement dans l'eau. Donc, se laver les cheveux avec du savon et du lac est interdit au Québec, car cela nuit à la qualité de l'eau et à l'écosystème. Par contre, se rincer à l'eau claire sans savon n'est pas considéré comme causer une nuisance semblable. Donc, actuellement, il y a un règlement et une loi là-dessus qui interdit. Puis, les municipalités devraient quand même prendre action et peut-être les organismes au niveau de.
Oui, je vais déposer à la secrétaire.
Je pense qu'il y a une mauvaise information au niveau de peut-être les municipalités ou non.
Bien, vous-même, vous avez mentionné que la responsable du département était en vacances
pour une
semaine. Et que, mais même elle, devant une question donnée, n'est pas obligatoirement au fait de tous les lois concernant tous les contaminants de toutes les circonstances. Moi, j'aurais pensé que la crème solaire est peut-être en cause, là. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Drambeau?
La crème solaire est en cause aussi.
Mais où dans la loi?
Mais loin de loin, parce qu'actuellement, dans la loi, on voit des contaminants. Tout ce qui est contaminant peut... ce genre de contaminant-là, qui contient un produit chimique qui va favoriser le développement des algues.
Oui.
On sait très bien que c'est une des causes principales dans le lac, actuellement, à cause... C'est sûr qu'autrefois, on n'avait pas de fosse septique, ça a tout tombé là-dedans. Ouais. Puis je vois des gens qui ont de l'eau de vaisselle sur leur terrain, qui ne sont pas même à 50 mètres du lac. À ce moment-là, ça s'en va directement par gravité dans le lac.
Mais ça, il faut voir si la loi l'interdit, ça. Les eaux grises, là, c'est un autre élément, parce que...
Mais vous regardez la loi, ce qui est marqué, c'est dans la loi.
Oui, mais ce qu'on met sur la terre ferme, c'est une chose. Ce qu'on met dans le littoral, c'en est un autre. Là. Parce que les eaux grises sont permises, là, quand même, sur un terrain privé. Moyennant des règles. Mais ce que je retiens de vous, c'est la question, c'est est-ce que la municipalité pourrait intervenir en affichant?
En indiquant un affichage ou quelconque
affichage.
Sur lequel on pourrait indiquer interdit selon la loi. Parce que de toute façon, on voit que au niveau du parc, ils vont marquer des indications, pas de feu, etc. Ils n'ont pas fait plein de choses.
Pourquoi
est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose?
Oui, c'est noté.
Parce que moi, je trouve ça aberrant. J'ai avisé, mais je suis inversé, est-ce qu'ils vont le faire encore? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire.
Ouais.
Je pense que c'est dépassé un peu.
Vous, est-ce que, entre vous et moi, puis il n'y a personne qui écoute au micro, là, est-ce que c'est des gens qui habitent les lieux, comme qui ont... C'est des campeurs?
C'est des invités, des gens qui invitent, d'autres gens qui viennent. Donc, des gens qui ne sont pas d'ici.
Non, mais il y a un chalet, mais ils ne s'en servent pas, là.
Il y a un chalet, ils invitent les frères, les parents, les frères, les soeurs, les gens. Ils louent le chalet, illégalement, là.
Ouais.
À ce moment-là, on se ramasse avec des cas problématiques.
Et selon vous, mettons qu'on a 1000 résidences sur le territoire, 1000 chalets, là, maisons, dont 800 seraient sur le bord du lac, des lacs, le vôtre, là. Les rivières et les différents lacs, l'affichage serait dans le périmètre urbain ou serait devant chaque propriété, parce que c'est là que ça se passe. Comment on l'affiche, d'après vous?
À notre cas, nous autres, il y a juste une entrée pour entrer sur le lac.
À l'entrée?
Oui.
À l'entrée des chemins, OK.
Un peu comme une entrée, un chemin public, ouais. Où on rentre. À ce moment-là, on les est au début du chemin. Donc
interdit.
Peu importe s'il y a 5 ans de chalet ou 100 chalets plus loin, on s'en fiche, c'est indiqué.
On se lave pas dans le lac.
C'est là, donc...
Ou dans la rivière.
En plus d'aviser les gens, je leur dis, écoute, c'est affiché, vous n'avez pas le droit.
Oui, OK.
On ne dira pas, je dis, qu'on paye une amende, si vous faites des choses, parce que là, on a jeté des déchets sur là, on voyait ça autrefois, 50, 100 piastres, 1000 piastres d'amende. Mais là, je pense que faut juste aviser, parce qu'on peut garder nos cours d'eau propres, surtout ce cours d'eau-là, ça en va dans le lac Simon, et puis c'est un des principaux rationnement de l'eau dans le lac Simon.
Ah, c'est tributaire, oui, absolument.
Et puis, je pense que ça, c'est important d'y voir à ce moment-là. Et puis, une petite question aussi sur la route. Il y a des pancartes avec des noms, des rues marquées, etc. Il y en a qui mettent leurs adresses sur les pancartes, en dessous, sur le poteau. Pourquoi est-ce qu'on tolère ça?
Je ne savais pas que c'était une pratique.
Oui.
Mais je note.
On va commencer à mettre nos adresses sur les pancartes. Là, tu sais? Il y en a des fois qui veulent avoir des indiqués, je ne sais pas trop. Ils mettent une pancarte en bas. Une, ça fait un an qu'elle est là sur la pancarte. Puis ils disent, ben, c'est fait, ils passent tous les jours là, puis il n'y a pas de commentaires, quoi, puis ils ne voient pas.
Ben, même moi qui passe sur votre chemin, je ne l'ai pas vu. Honnêtement, c'est pas. Pour vous, c'est peut-être facile. Pour un employé ou pour M. le maire, c'est compliqué, ça. Mais je note, puis on peut faire...
Parce que pour mon entreprise, je peux faire la même chose. Je peux mettre une pancarte en haut, vous dire, écoutez, le chalet, il était alloué, il était à telle place.
Oui, je comprends.
Je ne fais pas ça, c'est pas légal. Je ne peux pas dire ça.
Oui. Oui, c'est noté.
L'autre chose politique, l'autre problème politique semble avoir un problème sur la lutte sur le chemin personnel.
Politique, là. On fait...
Ça devient quasiment politique, d'après ce que j'ai entendu dire.
On fait-tu de la politique à soir?
C'est de la politique ce soir. Donc, le chemin Preston, il y a actuellement un ponceau dans le chemin Preston, complètement dans le bas. L'eau ne s'égoutte plus. Elle déborde, elle tombe sur le chemin.
Oui.
Le ponceau est bloqué. J'ai demandé à la voirie pourquoi est-ce qu'on ne répare pas. Ce qu'on m'a répondu, on ne peut pas le réparer. Pourquoi? Parce que le ponceau est bloqué. Mais pourquoi il est bloqué? Bien, c'est les résidents qui le bloquent parce qu'ils ne veulent pas avoir l'eau sur leur terrain. Je me dis, écoutez, là, il y a quelque chose qui se passe de pas normal, là. S'il faut qu'on commence à bloquer le contournement de l'eau pour pas que ça sorte, où est-ce qu'on s'en va? Donc, je pense que la municipalité devrait peut-être prendre ces puits-là, je ne sais pas, puis aller voir les propriétaires. Ou sinon, brandir le spectre de l'étatiser complètement, prendre une partie des lots pour faire circuler l'eau. On ne peut pas laisser un chemin public sans égouttement, avec problème, sachant que le ponceau est bloqué dans le bas, parce qu'il y a des propriétaires qui ne veulent pas avoir de l'eau sur leur terrain. Ça, c'est pas normal. Puis, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne prend pas action dans ce cas-là. Ça devient plus politique à ce moment-là.
Puis le ponceau en question, c'est un ponceau public?
Oui, c'est okay. Un ponceau public. Et puis il tombe, vous savez très bien ce qu'est la carrière de sable.
Oui.
Ça, je m'impressionne. Donc dans le bas, on voit très bien que c'est bloqué, une partie qui est bloquée. Okay. L'autre partie qui ne s'égoutte pas, qui tombe sur le terrain, fait qu'il y a une chicane entre qui va faire laisser passer l'eau. Mais l'eau, il faut qu'elle s'écoute à quelque part.
Okay.
L'eau, elle tombe actuellement sur mon terrain. Il ne faut pas me battre parce qu'il y a un ponceau qui tombe sur mon terrain. L'eau, elle s'en va pour dans le lac.
Ouais.
C'est un peu normal. S'il y a un problème, il faut aviser la ville qui a problème. Mais sinon, pourquoi je n'ai pas l'eau de circuler sur mon terrain?
OK, c'est bon.
Ça, c'est
mais normalement, je vous aurais demandé de préciser l'emplacement, mais je pense que c'est assez clair.
L'emplacement. Si vous demandez aux travaux publics,
Ils vont connaître le dossier. Parfait.
Elle est en vacances cette semaine.
Parfait.
Elle va vous expliquer exactement c'est quoi le problème.
Parfait.
L'autre nouvelle initiative que j'apprécie beaucoup, le dos d'âme.
Oui.
Alors ça, c'est bien. On a installé un dos d'âme sur le chemin Preston. Très bien, c'est parce qu'il y a les gens là comme des fous. On sait que ça va faire avancer la circulation. Maintenant, le dos d'âme, c'est peut-être nouveau pour la municipalité, je ne sais pas. Comment vous l'avez installé actuellement?
On a installé dans le passé, on les a retirés.
OK. Parce que de la façon que c'est installé, je me demandais pourquoi l'avoir installé là, exactement là, à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a eu une étude? Qu'est-ce qui est dit? C'est préférable là. L'autre chose, lorsqu'il y a un dos d'âme, absolument, on l'indique avant et après. Ou les gens qui arrivent de chaque côté, pourquoi il y a un dos d'âme qui s'en vient? Mais il n'y avait rien. Il y en a qui l'indiquent. Je ne sais pas si dans le futur, la municipalité pense mettre quelque chose là-dessus, mais je pense qu'on devrait vraiment indiquer. Parce qu'on voit les gens, quand les gens descendent, ils sont dans une côte, là tu le mets dans la côte, c'est pas indiqué. Les gens descendent, tu as le dos d'âme qui est là, puis de l'autre côté, la même chose, il y a rien indiqué, les gens montent, j'apprécie énormément qu'il y ait le dos d'âme relancé.
Mais
j'en voudrais même plus que sur le chemin que ça, parce qu'il n'a pas même pas encore assez. Mais il faudrait le Mexique.
OK.
Puis, je suis allé souvent au Mexique, puis je regardais le Mexique, et puis on a de quoi apprendre avec les dos d'âme, parce que les Mexicains ne suivent pas du tout la réglementation. La seule façon de les arrêter, c'est les dos d'âme. Puis, on a des très beaux dos d'âme, très bien faits, très bien dessinés. Mais c'est une bonne chose.
C'est noté, puis la signalisation, je veux m'assurer, parce que je m'attends à ce que l'école bleue, quand ils font des modifications à la signalisation, suit les règles de la province pour la signalisation.
Et surtout pour l'indiquer avant. À moins que ce soit temporaire, puis ils ont mis ça quand ils ne savent pas où le.
Mais indépendamment, même temporaire, on doit signaler correctement le temporaire.
Ça, c'est sûr. Que
j'en conviens.
C'est un gros manque avec ça, cette installation-là. Moi, c'est tout ce que j'avais dit.
Merci, M. Tremblay.
C'est
pas un dos d'âme, c'est-tu? Non, non, le temps, on l'a, là. Je laisse le 15 minutes de questions, c'est suggestif au maire.
Bonsoir, Daniel Marie.
Bonjour, M. Daniel.
Ça va, le 24, est-ce qu'on va avoir un vote par anticipation?
Oui.
Ah, OK, parfait. Pour le lac Gagnon-Est, le chemin.
Oui.
À la petite poussière, pensez-vous qu'ils vont leur passer une autre shot? Parce que là, ils commencent à en avoir pas mal, surtout avec le petit trafic avec la plage.
Le mois passé, je pense, c'est Mme Tousignan qui a fait mention d'une problématique pour la pointe à Baptiste. Elle ne touchait pas le lac en ouest. Puis, je lui ai mentionné que ça pourrait être à l'étude pour l'an prochain, parce que on commence la saison avec un budget pour faire un traitement, puis on essaie de l'étirer au printemps pour que quand on le fasse, ça dure une partie de l'été. Puis, la suggestion le mois passé, c'était, ben, faudrait peut-être prévoir dans le budget plus qu'une application. Peut-être pas partout. Je vais vous donner un exemple, M. Daniel. Le traitement de calcium, là, de l'antipoussière, sert pour empêcher la poussière de lever, mais aussi pour durcir les côtes, pour éviter qu'il y ait de la laveuse qui se fasse dans les côtes. Alors, peut-être que la voirie va nous dire, ben pour la bas poussière, ça nous en prend deux à certains endroits, parce que c'est question de volume de circulation. C'est ça qui endommage la surface. Mais d'autres secteurs, comme le chemin des lacs, où on en met pour les côtes, peut-être qu'une couche va suffire. Fait qu'on va l'analyser. On a pris l'engagement le mois passé de dire, ben c'est pas oublié. C'est des recommandations qui tiennent la route. Puis, on veut améliorer le sort des citoyens, non seulement en termes de qualité de route, parce que je pense que vous allez admettre que le lac Agnoès est mieux aujourd'hui que vous l'avez 10 ans, mais peut-être aussi pour la Bas-Poussière, on peut faire mieux, autant pour le lac Agnoès que pour certaines bretelles, pas tous, là, mais certaines bretelles pourraient bénéficier d'une deuxième couche. Là.
C'est parce que la plage, il commence à avoir beaucoup de monde.
Ça vous avez raison.
C'est qu'il y a trois semaines, il y a une fin de semaine, j'en ai compté 105 véhicules qui étaient à la plage. C'était une fin de semaine qui a fait très chaud.
Oui.
Mais aussi, la question de l'antipoussière, c'est que si on remarque, la laveuse se fait moins
ben,
que l'antipoussière. La grande côte, pour aller vers la côte jaune, elle se magane plus vite que présentement.
Mais il y a de la poussière une fois, mais elle pourrait bénéficier d'une deuxième couche. Là.
Oui. Merci.
Je vous entends. Les côtes, c'est nouveau pour nous. Il y a trois ans, on ne parlait même pas de ça. Vous avez souligné une problématique de l'achalandage à la plage du lac Gagnon. Puis, je ne dirais pas la plage, parce que je veux dire l'aire de pique-nique, parce que ce n'est pas une plage. On n'a pas de sauvetage de gardiens et quoi que ce soit. Et ça coïncidait la première fois. Ça coïncidait avec la fermeture du lac Simon. Pour la première fois de mémoire d'homme, la plage avait été cotée non baignable. Elle était cotée D, le trois semaines passées. Alors, ça a amené le monde à changer de plage, là, et ça a créé une problématique. J'en ai pas parlé avec le conseil, mais j'en ai parlé avec l'administration. On veut créer un comité, quatre parties, la municipalité, le centre touristique du lac Simon, qui sont propriétaires, les propriétaires du milieu, dont vous, là, mais il y en a d'autres qui m'ont appelé, et l'association du lac Gagnon, qui bénéficie de cette plage-là par la voie de la plage, par les bateaux, et regarder qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Dans un premier temps, un comité, mais aussi... au lieu d'appeler la SQ en panique un dimanche matin pour dire « on a vécu l'enfer samedi, venez faire quelque chose », ça bouge pas, ça réagit pas. Mais j'ai parlé avec la direction pour qu'il y ait une planification trois mois à l'avance pour dire « il va y avoir trois fins de semaine critiques cet été, il faudrait que la SQ vienne deux fois ». Puis là, on va essayer d'aller chercher leur engagement pour qu'ils viennent donner des contraventions, parce que c'est pas juste le volume, mais c'est l'illégalité, la façon qu'ils stationnent, puis le danger que ça représente, parce que ça stationne partout.
Les deux pancartes que vous avez mis là, pour les piétons, là, le ralentissement, ça, c'est efficace.
Oui, mais s'il y a des autos partout, même dans les côtes, on risque.
J'ai remarqué que le monde faut attention quand même. Il y a une certaine logique aussi, tu ne faut pas te mettre en haut de la côte quand tu vas peut-être prendre une partie...
Bien, s'il y en a qui trichent sur le stationnement, Bien, la SQ sera là pour les rappeler à l'ordre par une contravention.
Mais n'est pas aussi, on passe une fois. J'étais là à la
place. Ah oui, hein?
La SQ était là.
OK.
Ça fait qu'il y a quand même...
Ah, vous l'avez vu, la SQ? Oui, bien, bravo.
Passée,
bravo.
Cette année. L'année passée.
Ouais, OK.
Il y a maintenant, c'est une question de navigation. Il donnait des attentions, là, pour dire au monde de faire attention. Puis, c'est tout ça.
Mais je vous entends sur la poussière. Je vous entends sur la circulation. Puis, il y a des actions qui sont à réfléchir. Je ne dis pas cette année, on va faire ci, ça, ça. Mais c'est logique. Puis, c'est même une économie pour la municipalité, comme vous l'avez mentionné, sur l'entretien nécessaire par la machinerie. Là.
Présentement, le travail-tu pour le niveleur,
ça passait. Ben ça, je le note, là. Puis ça, on peut le faire cette année. Mais par rapport
oui,
à nos plans.
Attendez pas la prochaine fois, ça va être magané.
Moi j'ai noté. Je ne prends pas d'engagement à savoir quel jour de la semaine.
Ben, c'est une remarque. C'est une remarque, parce qu'il faut voir qu'on a eu beaucoup de camions qui ont passé. Là. Il y a de la construction qui se fait. Fait que les Rédénix, les semi-traileurs, tout ça. Fait que quand ils prennent la grande côte en haut de la côte jaune, ça se magasine.
Parfait, c'est noté.
Merci bien.
Monsieur Daniel, merci. Quelqu'un d'autre pour la première période de questions? Excellent. Je vais continuer. Je vais demander à Liette où
la
est-ce que je suis.
La correspondance.
Le point. Merci.
C'est le 7 points.
Fallait que je tourne ma page, je fais ça. Correspondance, les détails étaient à l'arrière. Ceux qui ont, il y a trois correspondances. Il y en a une que je veux vous souligner, vous pourrez me questionner sur les deux autres. C'est, il y a eu une association, le Cercle des fermières, qui nous remercie pour leur avoir aidé à rénover un local à Chénéville. C'est un cercle de fermières qui est régional. La présidente, soit dit en passant, est de Duhamel. Et l'histoire veut que le gros du sec des fermières, le lien tissé serré, pour ne pas faire de jeu de mots, c'est Duhamel qui l'a. Là. Et on a contribué à un 50 ou 60 $ pour un 5 gallons de peinture pour leur local. 7.2, rémunération du personnel électoral. Là, ça, on rentre dans le référendum et tant qu'à faire, dans les élections à venir au mois de novembre. Alors, il est résolu que les membres du conseil de Duhamel approuvent les tarifs salariaux suivants pour le référendum ainsi que des élections. Donc, la présidente d'élection a plein de tâches, là. Confection de la liste électorale, 671 $, le scrutin, 671, le bureau de vote par anticipation, 671 $, scrutin du vote par correspondance, 300 $, formation, 100 $, qui donne un total de 2413 $ pour un référendum ou une élection. La secrétaire d'élection doit 75 % de ce salaire. L'adjointe de la présidente doit 50 % du salaire que j'ai énuméré. Et maintenant, la commission de révision, les réviseurs, ça c'est, je pense, pour cette fois-ci, c'est le 14 et 15 à août, c'est 22 $ et 5 $ de l'heure, 22 piastres et 5 cents de l'heure. Le bureau de vote par anticipation, là, on s'amène au 24 août qu'on a mentionné là, tantôt. Le scrutateur, 23 $ de l'heure. Le secrétaire bureau de vote, 23 $ de l'heure. 23 $, ouais, c'est ça. Membre de la table de vérification, 21 $ de l'heure. Le jour du scrutin, le scrutateur va avoir droit à 23 piastres. Le secrétaire de bureau de vote, 23 piastres. Membre de la table de vérification, 21 piastres. Le primo, ça, je pense, c'est le shérif de la place, pas sûr. 23 piastres de l'heure pour vous dire... Vous portez un chandail qui identifie non. Alors, vous n'avez pas le droit de rentrer, mettons. Alors, le jour du scrutin, n'arrivez pas avec des étiquettes ou des chandails contre l'Umico ou quoi que ce soit. C'est le primo qui va faire la loi et vous allez lui faire gagner son salaire. rémunération forfaitaire pour la formation. Tous ceux qui n'ont pas été énumérés dans la formation antérieure, on doit 46 $ pour être formé pour leur tâche. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
7.3. Avis de motion, règlement 2025-07, abrogeant et remplaçant le règlement 2020-09 relatif à la délégation et suivi budgétaire. Avis de motion est donné par Denise Corbeneau à l'effet que le règlement 2025-07, abrogeant et remplaçant le règlement 2020-09 relatif à la délégation et au suivi budgétaire, sera adopté à une séance ultérieure. Dans un même temps, le projet de règlement est déposé. Est-ce que tout le monde... Ça, c'est un avis, je n'ai pas besoin de voter.
Non.
Pour votre information...
C'est le 11 et le 15 août.
Ah, les révisions, oui. Ah, je dis le 14 et le 15, mais c'est le 11 et le 15. Dans le 7.3, ce qu'on a vu, là, c'est la capacité de Yadkinville d'embaucher quelqu'un si ça fait partie de l'organigramme et qu'elle a le budget pour le faire. Elle n'a pas besoin d'autorisation du conseil. En gros, si le poste est syndiqué, si c'est un poste cadre non syndiqué, il faut qu'elle se réfère au conseil. 7.4, embauche à titre de DGA, greffière trésorière adjointe, greffe et communication. Considérant le départ à la retraite de Mme Monique Dupuis, embauchée à titre de DGA greffière, greffe et communication au 31 décembre 2020. Non, ça ne marche pas.
Considérant le départ à la retraite de Mme Dupuis.
Pas embauchée. Bon. Embauche à titre. Bien, elle quitte. Donne son départ à la retraite le 31 décembre. Considérant que le poste de DGA greffière trésorière adjointe greffe à la communication a été affichée à l'interne et à l'externe, considérant que suivant cet affichage, un comité de sélection a été formé et une candidate rencontrée, considérant que la transmission du savoir propre au poste d'embauche à titre de DGA, greffière trésorière adjointe greffe et communication nécessite une période de formation et de tuilage minimal de quelques mois, considérant qu'une analyse budgétaire a été effectuée et confirme que les disponibilités financières permettent l'embauche anticipée, laquelle engendrera une dépense additionnelle, considérant que la directrice générale a fait ses recommandations au conseil. En conséquence, il est résolu que Mme Véronique Minot soit et est embauchée au poste de DGA greffière trésorière adjointe, greffe et communication, et ce, à compter du 2 septembre 2025, et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer le contrat liant les parties. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
7.5, embauche à titre d'agente aux loisirs, culture et tourisme, considérant que le poste d'agente aux loisirs, culture et tourisme a été affiché à l'interne et à l'externe, conformément à la convention des employés syndiqués, considérant que ce poste est toujours vacant, considérant que l'article 5 du règlement 2020-07 sur la délégation et suivi budgétaire autorise à engager un employé occasionnel dans le respect des politiques et procédures de recrutement, considérant que Mme Jacinthe Rindeau a été embauchée temporairement depuis le 26 juin 2025, considérant que Mme Rindeau a manifesté son intérêt pour occuper de façon permanente le poste d'agente aux loisirs, à la culture et au tourisme. Il est résolu que Mme Jacinthe Rindeau soit et est embauchée pour occuper le poste d'agente aux loisirs, culture et tourisme à compter du 5 août 2025, que les conditions de travail applicables soient celles prévues à la Convention collective des employés syndiqués de la municipalité du Hamel, soit celles de la classe 6, échelon 3, que, comme prévu à ladite convention, une période de probation s'applique. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
7.6, adoption des descriptions de tâches et de l'organigramme. Considérant que la dernière révision officielle des descriptions de tâches et de l'organigramme de la municipalité a été effectuée le 4 décembre 2020, considérant que l'évolution des besoins organisationnels et des responsabilités des employés municipaux, j'ai pas éteint mon téléphone, considérant que la direction générale a reçu le mandat de procéder à la réévaluation des postes avec les représentants de deux employés syndiqués, là, ou avec deux représentants syndicaux. C'était ça que je voulais dire. Merci, Lydia. Concernant que la direction générale a procédé à une mise à jour des descriptions de tâches et de l'organigramme afin de refléter la structure actuelle et les fonctions réelles de l'administration municipale, considérant que cette démarche vise à assurer une gestion efficace des ressources humaines dans le respect des ententes de travail et des meilleures pratiques administratives, il est résolu que le conseil de la municipalité de Duhamel adopte les nouvelles descriptions de tâches et l'organigramme organisationnel de la municipalité tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
7.7. Mandat au notaire maître Louis-Philippe Robert pour la rédaction d'un acte de servitude, chemin Brazo, électrification. Considérant que des droits réels de servitude doivent être acquis dans le cadre du projet d'électrification du chemin Brazo, considérant qu'il est requis de préparer un acte de servitude en bonne et due forme, considérant que maître Louis-Philippe Robert, notaire, a été identifié pour agir dans ce dossier, considérant que la municipalité juge opportun de mandater ce notaire afin de rédiger l'acte de servitude nécessaire à la rédaction du projet, il est résolu que la municipalité mandate maître Louis-Philippe Robert, notaire, afin de préparer l'acte de servitude requis pour l'électrification du chemin Brazo, et que le maire David Farran et la directrice générale Liette Kenville soient autorisés à signer tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
7.8. Modification de la résolution 2025-07-41-308. C'est le congrès de la FQM. Considérant que la... Considérant que Mme Denise Corneau, conseillère, ne pourra participer au congrès en raison d'un empêchement, considérant que M. Michel Lontain, conseiller, a manifesté son intérêt à participer au congrès de la FQM en remplacement de Mme Corneau, il est résolu que le conseil de la municipalité de Duhamel autorise M. Michel Lontain à participer au congrès de la FQM en remplacement de Mme Corneau et que les frais d'inscription ainsi que les frais de déplacement et d'hébergement pour 3 nuitées soient remboursés sur présentation de pièces justificatives. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
7.9. Fin d'emploi par lettre d'entente, restructuration. Considérant la restructuration administrative mise en place par la municipalité, considérant que cette restructuration entraîne l'abolition du poste actuel occupé par Mme Leblanc, considérant que les partis ont convenu d'une fin d'emploi et souhaitent signer une entente, transaction, équitance en ce sens, considérant que ladite entente, transaction, équitance, prévoit le versement des sommes dues à l'employé, incluant un montant forfaitaire brut à titre de règlement et d'indemnité. En conséquence, il est résolu que le Conseil adopte les termes de l'entente transaction et quittance en date du 4 août entre la municipalité du Hamel, le syndicat, le SCFP, et Mme Mélanie Leblanc relativement à la fin d'emploi de cette dernière dans le cadre d'une restructuration organisationnelle et que la directrice générale greffière trésorière, Mme Kenville, soit autorisée à signer ladite entente et prendre les actions requises pour donner le plein effet aux modalités dites qui y sont établies, notamment le paiement des sommes dues. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Merci. Est-ce que j'ai de quoi rajouter là-dedans?
Non.
Au point 8, j'ai fini ma soirée, moi comme maire, et je vais tout simplement demander aux élus de prendre la parole à tour de rôle, en commençant par Michel Lontain pour le point 8.1. Monsieur Lontain.
Projet d'entente intermunicipale concernant le service de formation régionale des pompiers de la MRC de Pointe-Pinot. Il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Duhamel acceptent de conclure l'entente intermunicipale relative au service régional de formation des pompiers conformément au projet d'entente transmis ainsi qu'à la documentation afférente. Que le conseil de la municipalité de Duhamel autorise le maire ainsi que la directrice générale greffière trésorière à signer tous les documents donnant effet à cette présente résolution et que la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau conformément à l'échéancier prévu à cet effet. Tout le monde d'accord?
Oui.
Fin d'emploi du numéro 2266, lettre de remerciement. Considérant la fin d'emploi de cet employé, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Duhamel acceptent la fin d'emploi au poste de pompier, que lettre de remerciement lui soit acheminée et que toutes les sommes qui lui sont dues soient remboursées. Tout le monde est d'accord?
Oui.
Département des travaux publics et l'hygiène du milieu. Fin de probation de l'employé Régent d'Endurant. Considérant la fin de la période de probation de M. d'Endurant le 25 juillet 2025, considérant la recommandation de la directrice des travaux publics à l'effet d'embaucher M. Régent d'Endurant au poste de journalier temps plein, il est résolu que les membres du conseil acceptent la recommandation de la directrice des travaux publics à l'effet d'embaucher M. Régent d'Endurant au poste de journalier temps plein à compter du 25 juillet 2025, conformément à la classe 4, échelon 3 de la convention collective en vigueur. Tout le monde d'accord?
Oui.
Merci.
Bon, 9.2. Soumission non retenue. Location de camion Cirou 4x4. Ben arrière et lancement nouvel appel d'offres publiques pour une acquisition. 2025-08, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres publiques de 2025-03-02 pour la location clé en main d'un camion Cirou 4x4 équipé d'une benne de déchets en chargement arrière. Considérant qu'une seule soumission a été reçue dans le cadre de cet appel d'offres, soit celle de l'entreprise Camion Excellente Peterbilt Inc. au montant de 14 708,73 par mois, taxes incluses, considérant que le prix proposé est jugé trop élevé par rapport aux prévisions budgétaires et aux besoins de la municipalité, considérant l'article 938 du Code municipal du Québec qui permet à une municipalité de rejeter toute soumission reçue dans le cadre d'un appel d'offres. En conséquence, il est résolu que le conseil de la municipalité de Duhamel rejette la soumission reçue dans le cadre d'appel de AOP 2025-0302 en raison d'un prix jugé excessif, que la municipalité n'octroie pas le contrat relatif à l'appel d'offres initial, que le conseil mandate la direction générale de retourner en soumission pour l'acquisition d'un camion Ciro 4x4 équipé d'une benne à déchets à chargement arrière. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Merci, Michel. Avant de passer la parole à Marie-Céline Hébert pour le dossier environnemental, j'aimerais quand même expliquer parce que ce qui vient d'être lu sur la location de véhicules mérite d'être expliqué à la population. La location, c'est relativement nouveau pour nous. On est dans un mode de remplacement de véhicules qu'on achète dans un plan de remplacement. Et le conseil a jugé bon d'aller en location dans ce cas-ci parce que c'est un véhicule qui est unique. On n'en a seulement qu'un dans la flotte au lieu que, je ne sais pas moi, les 10 roues, les 6 roues. On en a 4 sur le circuit. Et d'autres véhicules qui sont uniques comme la pépine ou le loader ou la pelle sont interchangeables à court terme, en tout cas. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le tarif qui nous est proposé équivaut à un frais de 800-900 000 $ sur 5 ans qui nous apparaît là, cher pour se payer le luxe d'avoir un véhicule en location. Alors, on a décidé de dire que ce n'est pas la voie à suivre. Mais pour reprendre le calendrier à zéro puis dire, ben là, on va retourner avec une soumission pour l'achat, ben ça nous retarde de quelques mois. Le défi, c'est surtout pour le temps de livraison. Que ce soit location ou achat, il faut le bâtir, ce véhicule-là. Puis c'est pas comme un pick-up qu'on peut acheter en 2 semaines sur le lot. Il n'existe pas. Les 6 roues pour la cueillette des matières recyclables ou les ordures ne sont pas disponibles. Alors, il va falloir trouver une solution pour le temps que ça va prendre pour d'abord l'appel d'offres et l'analyse, le contrat et la fabrication. Alors, on va passer à travers une période où notre véhicule qui n'est pas fiable et l'arrivée de l'autre qui est plus fiable va devoir faire l'objet d'une analyse que le conseil va faire. On n'a pas la réponse ce soir, mais on est conscient que la population ait droit à un service adéquat. Puis on va vous arriver avec un plan qui va répondre à ce service-là, là, à la hauteur du service attendu. En gros, c'est ce que je voulais dire. Pas de solution, mais une préoccupation de la part de votre conseil pour régler le problème. Sur ce, je cède la parole à Marie-Céline Hébert pour le point 10.1.
Département de l'environnement et de l'urbanisme, c'est une modification de l'entente relative aux travaux à réaliser sur le lot 6 198 275. Alors, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de modification de l'entente intervenue avec le propriétaire de ce lot, considérant que la demande concerne le prolongement de l'échéancier prévu à l'entente, considérant que des efforts sérieux sont en cours pour réaliser les travaux requis et qu'il n'y a aucun impact financier ou environnemental lié à ce prolongement, il est résolu que le conseil municipal accepte la recommandation visant à prolonger l'entente, que le maire, M. David Parent, et la directrice générale, Mme Miettenville, soient autorisés à signer l'entente modifiée au nom de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord ou quelqu'un
oui.
demande le vote?
Merci, Marie-Céline. Je vais donner la parole à Raymond Bisson pour les points 10.2, 10.3.
Alors, bonsoir. On a parlé de dérogation mineure au début de la réunion. Alors, le point 10.2, dérogation mineure, le lot 6 164 885, route 321. Considérant que le propriétaire du lot 6 182 144 a soumis une demande de dérogation mineure en bonne et due forme pour ce lot dans le but de l'acquérir, considérant que la demande vise à permettre la délivrance d'un permis de construction malgré la largeur non conforme d'un chemin d'accès tel que prévu à l'article 26 du règlement de lotissement numéro 2023-06, considérant que la demande respecte les conditions prévues au règlement sur la dérogation mineure numéro 2023-07, considérant que l'analyse démontre que la demande ne nuit pas à la sécurité publique ni aux droits des voisins, elle ne compromet pas l'environnement, elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme, elle constitue un cas isolé et raisonnable lié notamment à la topographie du terrain et au contexte découlant de la réforme cadastrale, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu que le Conseil accepte la recommandation du CCU et accorde la dérogation mineure pour le lot 6 164 885, route 321, tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Oui.
Deuxième dérogation, dérogation mineure 3494, chemin du lac Gagnon Est. Considérant que le propriétaire du 3494, chemin du lac Gagnon Est, a soumis une demande de dérogation mineure pour ajouter un abri d'auto à une propriété résidentielle comportant déjà un garage de 79,53 mètres carrés. Considérant que la superficie totale des bâtiments accessoires projetés serait de 116,69 mètres, dépassant la norme permise par 37,16 mètres carrés, soit une dérogation de 46,74%. Considérant que ce dépassement excède nettement la limite pouvant être considérée comme mineure, considérant que le terrain permettrait l'aménagement d'un abri conforme ailleurs sur le lot, sans préjudice sérieux pour le propriétaire, et considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure visant à permettre une superficie excédentaire pour les bâtiments accessoires sur la propriété située au 3494, chemin du lac Gagnon S, lot 5 257 743. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Oui. Merci, Raymond. Je cède la parole à Denise Corneau pour les points 11.1, 11.2.
Département des loisirs, culture et tourisme, développement économique. Demande de don. Comité d'ensemencement du lac Doré, 2 août 2025. Considérant la demande de commandite du comité d'ensemencement du lac Doré dans le cadre de leur journée de pêche familiale du 2 août 2025, il est résolu que le conseil de la municipalité de Duhamel autorise le versement d'une commandite de 200 $ dans le cadre de la journée de pêche familiale du lac Doré. Tout le monde est d'accord?
Oui.
Souper de la traversée du lac Simon, 8 août 2025. Considérant la tenue du souper spectacle dans le cadre de la traversée du lac Simon 2025 qui aura lieu le 8 août prochain, considérant l'importance pour la municipalité de Duhamel d'assurer sa visibilité lors de cet événement, il est résolu que les membres du conseil autorisent l'achat d'une table de 6 couverts pour le souper spectacle de la traversée du lac Simon 2025 qui se tiendra le 8 août, que 4 des 6 billets soient offerts à des bénévoles de la municipalité en reconnaissance de leur dévouement, que les bénévoles soient accompagnés du conseiller M. Gilles Payé, ainsi que sa conjointe, cette dernière assumant personnellement le coût de son billet. Tout le monde est d'accord?
Oui. Oui. Merci, Denise. Deuxième période de questions, commentaires. M. Tremblay. Pas de commentaire dans la salle, s'il vous plaît.
Une question supplémentaire pour Mme Corneau.
Ben oui.
À propos de la coopérative.
À moi la question.
À vous la question.
Oui, M. Tremblay, s'il vous plaît.
Pour la coopérative actuellement qui va avoir lieu, est-ce que ça va fournir aussi le propane ou il va être juste l'essence?
Je vais laisser Denis se répondre, si elle veut.
Notre but, c'est de fournir l'essence dans un premier temps et le propane et le diesel. Mais on commence par vraiment l'essence, parce qu'on aimerait acquérir le dépanneur, mais là, c'est d'autres procédures qu'on est en train de travailler. On travaille le plan d'affaires pour le financement, Ensuite, on va aller pour des subventions, puis on espère faire l'achat de Sergio.
On peut voir combien de temps?
La
question était posée le mois passé, puis on parlait de 6 mois, mais là, il doit rester 5. Il faut déduire les mois, on ne peut pas juste dire 6 mois à chaque fois.
Pour la vente de l'abonnement, on ne peut pas faire de la promotion pour accélérer ça?
Ça va être dans l'infolette, la prochaine infolette.
Les conseillers peut-être pourraient participer. Les gens qui connaissent les rencontres.
Oui, c'est
sûr. Donner des pamphlets, connaissent les gens dans le secteur, pousser ça.
Oui.
Moi-même, je vais participer quand même, il faut quand même ramasser des gens. Je trouve que c'est une très bonne idée.
Good. On a créé un comité citoyen. Puis dans la salle, je vois Tony Dumais qui est là, qui est sur le comité. François est là. François joue le rôle de président du comité. Il est caché, là, vous l'avez dans le dos. Alors, il y a d'autres personnes, puis là, si je les nomme, je vais en oublier. Alors, mais on est 8 environ là, à travailler à ce dossier-là. Puis là, on arrive à l'étape de... On a même choisi...
Oui.
Je vais laisser Denise dire quand il va y avoir la première assemblée, hein, parce qu'on a choisi, François, Tony.
Donc, la journée de la fête des citoyens, le 6 septembre, on va faire une réunion pour tous les citoyens du Hamel dans la salle municipale ou sur le terrain, dépendant de la température. Puis, on va informer tous les citoyens, puis on va créer le comité d'administration, parce que c'est un comité qui...
On a un comité provisoire actuellement et c'est à 4 heures le 6 septembre que va être créé le premier conseil d'administration de notre coopérative. Alors,
Les cartes de membres vont être disponibles.
Ils
sont déjà disponibles.
On va en avoir vendu. On va en avoir vendu 200.
Il va en avoir ici à la municipalité en avant.
Le grand défi là, de faire la promotion de la coopérative, c'est l'élan qu'on a, citoyen, de faire sortir le vote le 31. Et on ne veut pas
mélanger les deux.
On veut faire du porte-à-porte pour commencer ou faire des réunions en plein mois d'août quand on est déjà sollicité par le vote, par le référendum. C'est là qu'était le défi. C'est pour ça qu'on a repoussé à la fête citoyenne le 6 août. Le comité en a choisi ainsi là, par stratégie.
Une question sur le référendum. Donc, les gens vont être contre, ça c'est sûr, ils vont voter en le plus faux, s'ils vont être contre.
En partie.
À ce moment-là, quelle force de loi on a avec ce genre de référendum? Parce qu'en réalité, un référendum, c'est pour faire accepter ou refuser quelque chose. Ouais. Dans ce cas-là, c'est comme on l'a dit tantôt, c'est vraiment spécifique, mais qui n'a jamais été fait auparavant. Ouais. C'est quoi? Est-ce que c'est seulement psychologique ou
du
ministère ou du premier ministre?
La loi prévoit deux types de référendum. Puis celui qu'on utilise, on l'appelle le référendum consultatif. Il n'est pas donc exécutable sur le choix de la population, mais il va servir à deux sauces. La première, c'est de répondre à M. Legault et ses ministres, de dire, si vous attendez l'acceptabilité sociale, voici le portrait aujourd'hui de l'acceptabilité sociale. Vous pourrez dire que dans 6 mois, ça peut changer, puis ça se peut, mais avec le vote qu'on va avoir, même si ça change, il faudrait que ça change dramatiquement. La deuxième chose qu'on va faire avec, c'est de répondre à l'audience publique qui, lui, le BAP, le bureau d'audience, veut savoir qu'est-ce que les gens s'en pensent. Ils veulent évaluer l'acceptabilité. Il n'y a jamais eu, dans le passé, une municipalité qui a déposé un résultat pour répondre à cette question-là. Et on en a fait des sondages. À Lac des Plages, on a fait du porte-à-porte pour signer une pétition. Mais c'est pas reconnu comme une façon raisonnable de déposer une pétition. On a fait, c'est ceux qui ont participé, puis on était nombreux, on était 300 dans l'église, là, à faire une consultation publique avec l'UMICO en 2024, en juillet à peu près. Là. Et on avait des papiers avec un questionnaire puis un crayon dans chaque banc d'église. Ça répond du fort, là. Et à ce moment-là, on était à 94 ou 96 des gens dans l'église qui disaient qu'ils étaient contre, après la rencontre avec l'UMICO. Et ça aussi, on pourrait se servir de ça, mais le gouvernement va dire, mais ça, c'est rien que 300 personnes dans l'église. Il y en avait un autre 800 dehors de l'église qui n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres? La vraie façon de répondre, c'est de dire, bien, la seule façon que je connaisse qui est reconnue par la province, par Élections Québec, c'est de faire un référendum consultatif. Tout le monde est informé. Il y a un camp du oui, il y a un camp du non. Tout le monde a la chance égale de s'informer et de participer. Alors, c'est ça qu'on a choisi. Un budget quand même de 70 000 piastres pour les 5 municipalités non subventionnées par les provinces, non? Pour la province.
C'est pas ça, c'est vraiment un avis public.
Mais c'est des jeux en moins dans le parc pour les enfants, c'est des jeux en moins pour les adultes qui aimeraient bien jouer, je sais pas moi, au pickleball. Là. On l'a pas, le jeu de pickleball, on l'a dépensé sur un référendum. Là. C'est ça la réponse. Mais on le fait, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour avoir cet outil-là. Informer le premier ministre en disant, je pense que c'est Mme Geneviève Gagnon dans la presse aujourd'hui qui citait, est-ce que les babines vont suivre les bottines? Je pense que c'était le titre dans la presse. Là. Et c'est pas moi qui le dis. C'est une femme d'affaires qui embauche 120 employés dans la région là, et qui dit, j'espère que le premier ministre va comprendre le message du référendum. Alors, ça va servir à ça. Et nous, moi comme élu, si c'est moi qui vais représenter la municipalité devant le BAP, dans un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas quand on va avoir un bureau d'audience publique, advenant que la compagnie n'abandonne pas en cours de route, bien, on va avoir un outil qu'aucune autre municipalité a eu dans le passé, à déposer au bureau d'audience publique. C'est fort. D'après moi, c'est très fort.
Parce que je vois l'indifférence de la compagnie actuellement vis-à-vis ça. Je me demande si on n'a pas quelque chose de premier, quelque chose de même, qui sont à peu près sûrs de l'avoir parce qu'ils sont tellement indifférents à ce genre de référendum-là.
Moi, vous dites indifférence, moi je dis arrogance.
Ah, ben, peut-être.
Oui. Moi je dis ça, là. Moi je dis c'est de l'arrogance, là.
Parce qu'ils pensent que c'est déjà acquis à leur point de vue, d'après moi.
Bien, d'après moi, le droit des citoyens, à leurs yeux, a moins de valeur que leur droit, eux, de claimer le territoire. D'après moi, là. C'est comme ça que je le perçois.
D'ici deux ans, on va peut-être avoir des élections en fond, on va voir.
L'année prochaine.
Il va en avoir.
Exactement. Merci.
Oui, cinq référendums.
Bonsoir, juste pour terminer, M. Tremblay, c'est moi, François Dumont, qui est un des instigateurs de la coopérative. Ça me fait plaisir, puis si vous pensez que c'est long, je vous dis, c'est long. Même moi, j'en prends mon roman. Pour l'homme le plus passionné de la planète. Bref, M. Mans, c'est juste pour faire slip, vous approchez, me semble, en juin ou en juillet, pour concernant les deux A que le gouvernement provincial a trouvé des subventions aux municipalités ou aux gens éloignés en région. Je suis pas à la suite de ça parce que vous me dites, vous avez pensé, on pourra faire le claim. Moi, je vous dis, prenons-les, puis après, on se brainstormera où ce qu'on peut y mettre. Fait que quand on a les outils dans nos poches, dans le coffre, c'est déjà compté. Oui, dans le power outil dans notre coffre. Fait que c'est ce que la suggestion que j'en fais. La subvention de l'EDOA, puis après, on checkera où ce qu'on peut y mettre.
Ma compréhension, M. Dulon, puis je sais que vous êtes très animé par ça. Ma compréhension, puis je fais peut-être fausse route, là, mais l'administration pourrait me guider, c'est qu'une subvention, c'est pas le bord ouvert en disant combien d'argent tu veux, combien t'en veux. Il faut le justifier à savoir où est-ce que vous allez le mettre, combien de personnes ça va. Faut avoir un projet en main. On ne peut pas juste dire...
Quand je suis venu vous interpeller ici, j'avais vu ça dans la presse, que je l'ai vu. Comme aujourd'hui, c'est un accès très intéressant. Fait qu'on, on aurait pu sauver des questions. Juste aller à la presse, aujourd'hui, on avait toutes les réponses. Bref, c'est juste que moi, j'ai vu ça, puis je me suis dit, ça, on fait partie d'une région éloignée ici. Fait que ça nous interpelle, ça nous appartient. Effectivement, je sais qu'il faut peut-être monter un dossier, mais je me dis, si la porte est ouverte, il faut toujours mettre le pied dedans. Fait que, moi, tout ce que je vous disais, c'est, mettons le pied dedans, puis après, on peut brainstormer ce qu'on peut y mettre. Je vous dis, j'ai déjà des idées, mais c'est pas sûr qu'on va en débattre, mais si on laisse l'opportunité, elle reviendra pas. Puis là, vous allez le faire, quoi qu'on fasse, au lac doré, faire du porte-à-porte, pour lâcher un DA. Okay? Moi, je vous dis, j'ai pas ce patience-là. Mais quand il y a une subvention qui est à portée de nous-mêmes, puis qu'on drive le dossier, mais allons-y, mettons le pied dans le pot, puis si on est capable, je vous dis, ça va être plus facile de brainstormer avec votre groupe, où est-ce qu'on peut les mettre adéquatement pour notre population.
Moi, je
pense que c'est ma compréhension de ça. Mais je comprends très bien ce que vous me dites, monsieur. Je comprends très bien.
Merci. Et à ça, je réponds, je pense que dans la province de Québec, la première place où les citoyens se sont pris en charge pour mettre deux stations de défibrillateurs, c'est au Lac Doré, sur le chemin Lac Doré Nord. Et d'après moi, ça n'existe pas, en tout cas en Outaouais. Alors, on le fait à Duhamel. On a cette volonté de le faire, et on le fait d'abord par des citoyens engagés qui ont vécu un drame, je dois dire, malheureusement, et avec l'appui de la municipalité. L'appui financier, l'appui à long terme pour l'entretien. Parce que c'est beau avoir un système et avoir l'argent, mais il faut à tous les mois quelqu'un s'en occupe. Là. Alors, on est engagé à ça. On l'a été en 2024 avec le Lac Doré. On est très intéressé de s'engager avec d'autres partenaires. Mais s'engager sans partenaire identifié, c'est difficile. Je vous le dis, c'est difficile. OK. Mais... moi, je veux bien mettre le pied dans la porte.
Mais c'est une dépense récurrente, je vous demande
mais ça, c'est correct. On s'est engagé à ça. Le récurrent, c'est la formule. Puis la municipalité joue ce rôle-là d'appui récurrent. Monsieur Gilbert.
Bonsoir, Gilbert Rousseau, Lac Doré. Pour faire suite à l'article de la presse, on va confirmer tantôt que ce soir, on a eu. Une visibilité sur RDI Montréal. Ça a passé à la télévision ce soir. Oui. Il m'a appelé tantôt, c'est pour ça que j'étais comme.
Ah oui.
Puis les téléphones avant l'entrée. Alors, juste vous informer, fait que des fois, peut-être RDI en rattrapage, j'arrive capable de voir le reportage. Mais ça.
Aidez-moi quelqu'un, là, j'aimerais ça le voir.
Ensuite, au niveau, vous avez parlé dans notre jeu d'évaluation, le rôle d'évaluation. Savez-vous si c'est la reconduction du rôle ou c'est avec la portion médiane ou c'est complètement
non.
La refonte?
La reconfection. On la refait. Reconfection totale?
Totale.
OK. Et on n'était pas obligé, c'est un choix qu'on a fait. Et ce qui nous a interpellé, c'est les différences de variation entre les zones. De la municipalité. Il y aurait une iniquité flagrante si on avait poursuivi tout simplement avec l'ancien rôle pour un autre 3 ans.
OK. La question, c'est concernant le camion d'ordure
oui.
Avec cette saga. Vous avez mentionné tantôt que vous avez 4 camions, etc. Est-ce que c'est le système hydraulique de la boîte qui est défectueuse ou c'est le camion?
Bien, c'est l'ensemble. Ce qu'on a réalisé, c'est que notre plan de remplacement va, exemple, dire un camion 6 roues ou 10 roues, on lui donne une durée de vie de 10 ans. Puis au bout de 10 ans, on le change. Puis le plan est assez bon, mais il n'est pas parfait. À chaque année, on essaie de l'améliorer. Mais on s'est aperçu qu'un camion d'ordure, quand tu n'en as rien qu'un, puis que c'est le camion que tu utilises le plus dans la flotte, peut-être que la durée de vie de 10 ans, c'était une erreur de notre part. Ça aurait peut-être eu 7 ans ou 6 ans. On l'a comme échappé, celle-là. Puis on l'a laissé aller jusqu'à 10 ans, pas par souci d'économie, mais dans une saine planification de gestion de l'inventaire. Puis on a manqué le bateau. Parce qu'à 10 ans, il nous coûte d'abord cher en entretien, en réparation. Il n'est pas fiable, donc il est défectueux, puis il tombe en panne, fait qu'il n'y a pas de service pendant une journée, deux journées. Là, on loue un camion pour le remplacer, fait qu'en plus de payer pour le réparer, puis de ne pas avoir la satisfaction des citoyens qui viennent me voir en disant, tu sais, je n'ai pas eu la cueillette, bien là, on loue un camion, ça fait que ça coûte cher. Et c'est une erreur qu'on doit corriger. On pensait de le corriger par location, mais ce n'est pas la recette. Il faut recommencer l'exercice d'achat, mais cette fois-ci, j'encourage le conseil à reviser le plan de remplacement pour dire, ce véhicule-là particulier, on doit le reconsidérer à la baisse en termes de durée de vie.
Moi, c'était pas la pertinence de le remplacer, ça, c'est certain. C'était plus en attendant de pouvoir le remplacer, le moindre coût, si on avait pu utiliser un camion que vous aviez déjà pour transférer la boîte dessus,
ben,
si c'était
réalisable. J'ai questionné, puis c'est question d'hydraulique. Les hydrauliques pour un camion d'ordure ne sont pas les mêmes hydrauliques que pour un autre camion. Moi, j'aurais souhaité, pour faire du brainstorming sur ce que vous dites, j'aurais souhaité qu'on ait deux véhicules prêts à recevoir la boîte, interchangeables. Et on me dit, bien, le coût des hydrauliques, ça va te coûter un bras pour... et là, j'ai pensé à deux fois avant de dire, faisons ça. Là. Mais c'est encore envisageable. Quand on aura un autre 6 roues à remplacer, on regardera l'option de dire, es-tu interchangeable avec celui qu'on vient de commander? Là.
Merci beaucoup.
Merci. Merci,
M. Gilbert. Peut-on le garder, le vieux, on va passer en mode achat, le neuf vieux, est-ce qu'on peut le garder en réserve? Parce que des fois, vous savez, il y a l'entretien sec, de l'entretien, on n'arrive pas au Québec, avec l'entretien sec, un petit peu un graissage, je vois le tout. Des fois, d'avoir un en réserve, ça arrive même
pour véhicules neufs. Je ne peux pas répondre pour celui-là. Ça va venir quand on va vouloir en disposer. Puis ça sera probablement un autre conseil à ce moment-là qui va prendre la décision. Mais je peux vous répondre pour ce qui s'est passé dans le passé. Puis récemment, on a remplacé la pépine. Puis, il était question de dire, bon, on va garder l'ancienne. Comme ça, elle pourra... Pour la pépine, la réponse du conseil, c'était, il n'y en est pas question. On a un plan de remplacement, on remplace, mais le mot remplacement veut dire qu'il y en a un qui part, puis l'autre, il y en a... Parce que c'est vrai, si c'est vrai pour le 6 roues, c'est vrai pour bien des choses. Puis le conseil, à l'époque, qu'on a pris des décisions, n'était pas chaud à l'idée de garder de la machinerie vieille de 10 ans, 12 ans, 13 ans... alors, en tout cas, pour répondre, c'est ça. Ça va? D'autres commentaires, questions? On va conclure, puis sachez que les membres du conseil restent quelques minutes là, pour bavarder avec vous au besoin. Et sur ce, il est résolu que la séance soit levée à 20h07. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
Merci beaucoup. Très, très forte participation de votre part.